est probable que la mise en valeur des terres incultes, le défrichement, l'urbanisation ont aussi une incidence sur le climat.
Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Oh, c'est fou! Oh, l'esprit!
C'est le dernier rapport du GIEC qui le dit, c'est pas moi et ma naïveté. On a les solutions, on peut mieux vivre.
La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
The destruction of the entire planet isn't supposed to be fun.
On en a vraiment, vraiment plein le cul.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission d'Agissons, le magazine de la transition écologique. Cette fois, c'est une petite spécificité. Nous sommes actuellement à la Gare Saint-Sauveur dans le cadre d'un événement organisé par la MRES. Et donc, cet épisode, pourquoi il est particulier? Bah déjà, c'est parce que c'est le dernier de la saison, malheureusement.
Oh.
Et oui. Parce que nous sommes en
public.
Ouais. Voilà. Ah donc, écoutez, bien, vu que les esprits sont assez vifs et les énergies bien, bien remontées et prêtes à nous écouter, je vais passer la parole à mon collègue Mathis.
Cette émission va porter sur l'écologie pour tous et pour toutes. Et donc, on va voir pourquoi c'est important d'en parler. Eh bien, tout d'abord, parce que nous sommes tous touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Et voilà, parce que c'est pas nouveau. Le changement climatique impacte donc les différentes régions du monde différemment, entre le nord et le sud, mais aussi donc entre les différentes classes sociales. Il y a une constante, si les riches polluent le plus, les pauvres sont les plus touchés. Et donc les banlieues notamment. Et donc qui se retrouvent en première ligne, via des problèmes de santé, la pollution de l'air, les passoires thermiques, il fait trop chaud l'été et trop froid l'hiver. Mais parallèlement à ça, il y a aussi une mise à l'écart de ces habitants. On ne leur donne pas assez l'occasion de s'exprimer, ce qui les exclut, notamment des centres de décision, ce qu'ils représentent, etc. Et donc, il y a une double peine écologique, à la fois représentative, qu'on verra aussi tout à l'heure, et face aux conséquences concrètes du changement climatique. Ces conséquences donc, vont rendre la fin du mois aussi plus compliquée.
Alors, d'où l'intérêt de se poser la question. Est-ce que l'écologie, c'est un truc de riche? Alors, nous avons réalisé avec Marine un micro-trottoir à plusieurs endroits dans la métropole lilloise. Et là, je vais vous partager un extrait de certaines phrases qui sont ressorties à propos de ce sujet. Ce qui ressortait, en fait, c'est que l'écologie était accessible pour tous, pour tout le monde. Tout le monde se sentait concerné, enfin, devrait l'être en tout cas. Et que, par contre, il y a des différences au niveau des échelles. Souvent, il revenait que les industriels, en fait, c'était à eux de changer les choses pour inverser la tendance et pas forcément uniquement nous, en tant qu'individuels, nos gestes, petits gestes colibris, en gros, n'étaient pas évidents à mettre en œuvre dans ce cadre-là. Il est revenu aussi le fait que manger bio, ça coûtait souvent plus cher. Et que changer de système, c'était plus facile pour les riches. Et je ne m'étale pas sur la question parce que de toute façon, nous allons largement développer ces sujets-là dans la suite de l'émission. Et donc, effectivement, une dernière chose, c'est qu'il y a une personne, un jeune d'une vingtaine d'années, 24 ans, je me souviens, Marine, excusez-moi, je me suis tournée vers elle,
vous
m'entendez un petit peu moins bien. Donc, tout dépend du vécu et du milieu d'où on a grandi. Et donc, je le cite vraiment, il disait, quand on vient d'un milieu, disons, tourmenté, et j'ai trouvé ce mot très intéressant, parce que ce mot tourmenté, je pense qu'il est assez juste par rapport à ce qu'on va évoquer ensuite. Donc nous allons, dès à présent, nous lancer, si vous le voulez bien, public en délire, vers un approfondissement donc, de ces questions de transition écologique au sein de nos populations. De nous, en tant qu'individus, qui, comme nous le présente Fatima Wasak dans son ouvrage « Pour une écologie pirate », dont Cécile nous parlera juste après, n'a pas l'air si équitable. Je la cite pour introduire la super chronique à suivre de Marine. À propos des classes populaires, l'écologie majoritaire parle plutôt des choses dites concrètes, du quotidien. Comment mieux manger, mieux se chauffer, avoir accès aux espaces verts, aux besoins primaires. Et d'applaudir ces braves gens qui gaspillent peu et présentent un faible bilan carbone. Une sorte de « bravo les pauvres d'être pauvres ». Qu'en dis-tu de cette citation ?
Bon, on se rend toutes et tous bien compte qu'en ce moment, le climat est plutôt anxiogène. On constate une hausse générale des prix, un mécontentement face aux réformes du gouvernement. Et s'ajoute à cela un rappel constant qu'au niveau de l'environnement, on n'est pas au top. Bref, on est traversé par plusieurs problématiques qui parfois semblent bien éloignées, voire contradictoires. Le rapport du GIEC le constate, la lutte actuelle contre le réchauffement climatique n'est pas suffisante. Les gouvernements ne réagissent pas assez fort, pas assez vite. Et quand le gouvernement réagit, il se prend un tollé de la part de la population, en témoigne la mobilisation des Gilets jaunes. Je vais revenir sur ces contestations et sur ce que l'on a à en apprendre. Le point de départ de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est la volonté du gouvernement d'augmenter la taxe carbone qui vise à taxer la consommation de CO2. D'un point de vue extérieur, de bobos gauchos écolos qui habitent en plein centre-ville et n'a pas de voiture, on se dit « Waouh, ouais, c'est super, on taxe les pollueurs, celles et ceux qui prennent leur voiture. » Mais en fait, de l'autre côté du périph, dans les zones rurales, on se dit « Ben non, j'ai pas le choix d'utiliser ma voiture pour aller bosser, il y a un bus toutes les 3 heures, je veux pas payer plus cher l'essence. » Et voilà comment on se retrouve dans un cul. Enfin, un cul-de-sac. Mais du coup, comment on fait? C'est vrai, ils sont relous ces ruraux à vouloir pouvoir se payer à manger avant de penser à notre planète, merde. Bon, on se calme. Est-ce qu'ils sont vraiment pas intéressés par l'écologie, ces Gilets jaunes? Des sociologues se sont déjà posé cette question dans une enquête du collectif d'enquête Gilets jaunes réalisée en 2019 pendant les mobilisations. Ils ont interrogé plein de Gilets jaunes et leur ont parlé d'écologie notamment. Le rejet de la taxe carbone n'est en réalité pas un rejet de l'écologie pour la plupart, mais plutôt un rejet d'une mesure injuste qui fait peser gros sur les épaules des personnes ayant les plus bas revenus. Ben ouais, la taxe carbone, c'est pas un moyen d'action très juste. Ça n'empêchera pas les plus riches de continuer à prendre leur voiture. Vous vous souvenez peut-être de ce monsieur.
« J'ai plus d'essence. Je suis prêt à payer l'essence 10 fois plus cher. Je m'en fous. Je suis riche. »
Bon, c'est un peu caricatural, mais ce monsieur existe vraiment. Toujours est-il que ça contraindra beaucoup plus fortement les plus pauvres, qui sont parfois obligés de prendre leur voiture. 10 euros quand tu touches un salaire de 1200 euros, c'est pas la même chose que 10 euros quand tu touches un salaire de 5000 euros. Il y a un réel enjeu derrière tout ça de justice sociale. Surtout quand on sait que les plus riches sont aussi ceux qui ont l'empreinte carbone la plus élevée. Donc augmenter les prix arbitrairement, c'est peut-être pas ce qui va permettre au front écologique de s'élargir. Voilà ce que disait une des Gilets jaunes qui se revendique écolo.
Moi je suis écolo, je suis pour la transition écologique. L'argent de la transition écologique, il peut pas venir des gens qui ont déjà du mal à finir la fin de mois. L'argent de la transition écologique, c'est la justice fiscale qui doit l'amener.
Un autre point important dans le discours des Gilets jaunes rapporté dans l'enquête est la confrontation entre le bien consommé de l'écologie dominante et des plus aisés et le moins consommé de l'écologie populaire. Les contraintes sociales qui pèsent sur les Gilets jaunes issus de milieux populaires les contraignent à moins consommer et d'un autre côté les empêchent de mieux consommer. Ils se retrouvent donc exclus de l'écologie dominante alors même que du fait de leur consommation restreinte, ils ont une empreinte carbone faible et sont de fait écolos. Idéalement, il faudrait à la fois peu consommer et bien, mais pourquoi consommer bio toute l'année, être végétarien, mais quand même prendre de temps en temps l'avion, ce serait mieux que de ne jamais prendre l'avion et consommer peu. Tout le monde doit pouvoir se sentir légitime dans la lutte pour la protection de l'environnement, sauf peut-être Bernard Arnault, j'avoue. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que la contestation des Gilets jaunes avait lieu en même temps que les marches pour le climat. C'est clairement des mouvements différents qui ont dans leur rang des personnes très différentes, mais il y a eu des appels à la convergence. Et dans le fond, tout le monde rejette la même chose, le système dans lequel on vit. C'est peut-être par ce bout-là que l'écologie de demain doit être prise. Comment transformer notre système pour tous mieux vivre?
Agissons. Agissons.
Nous allons, dès à présent, passer sur la chronique de...
Cécile.
Tu vas nous parler du livre dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué
c'est
le
ça,
titre, que nous montrons à notre public en délire, qui s'appelle « Pour une écologie pirate ». Donc un ouvrage de Fatima Wasak, et le sous-titre est « Pour une écologie pirate », sous-titre « Et nous serons libres ». Oui. C'est ce qui est important.
Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même parler de l'autrice. Donc Fatima Wasak, elle est politologue, essayiste, consultante, militante, bref, elle a fait plein de choses. Et elle a notamment cofondé le syndicat de parents des quartiers populaires Front de Mer et aussi Vert Dragon. Donc je laisserai Magali développer le sujet tout à l'heure.
Mystère.
Et le gros mystère, oui. Et du coup, par rapport au livre, on constate qu'il fait partie déjà d'un ensemble. En fait, c'est le deuxième tome d'une trilogie que Fatima Wasak est en train d'écrire. Donc, elle avait déjà écrit précédemment « La puissance des mères », qui parle de féminisme, de parentalité dans les quartiers populaires. Et là, du coup, on en est au deuxième ouvrage. Et c'est ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il propose vraiment d'envisager l'écologie comme quelque chose qui est pour toutes et tous, comme on l'a un peu introduit, quelque chose qui est accessible en fait pour tout le monde. Et Fatima Wassak va partir d'un constat, c'est que les partis écologistes ne s'adressent qu'à un certain type de population, donc généralement la classe moyenne, généralement en classe moyenne supérieure, blanche, donc pas trop les personnes qui risquent de se faire discriminer à l'embauche, de se faire recaler pour un logement ou se faire contrôler dans la rue bah, comme ça parce qu'ils avaient un peu une tête bizarre, suspicieuse ou quoi. Et en vrai, si on va à une marche du climat, justement, comme l'a un peu dit Marine tout à l'heure, ou même si on va et demain, j'ai envie de dire, on voit que la population qui est présente, elle est quand même un peu bien blanche, un peu bon, classe moyenne sup et tout. Et ce que Fatima Wassak va dire ensuite, c'est que le problème, c'est pas que les classes populaires, elles s'en fichent de l'écologie, c'est qu'elles, ou qu'elles veulent juste pas participer aux questions écologistes, c'est qu'en fait, elles n'ont pas de voix politique pour s'inclure dans le projet. Et sa solution à elle, c'est élargir le fonds écologiste pour que tout le monde puisse du coup y participer. Et cet élargissement, il va pas se baser sur deux points principaux. Donc, d'une part, elle parle beaucoup dans son ouvrage d'ancrage territorial, d'ancrage dans la terre. Et elle montre que bah, les personnes qui vivent dans les quartiers populaires, c'est souvent des personnes issues de l'immigration, même si ça fait plusieurs générations qu'elles sont en France. Et on leur dit quand même, malgré tout, que bah, elles sont pas ici chez elles. Elles n'ont rien à faire là, qu'elles n'ont qu'à rentrer dans leur pays. Et même pendant les dernières présidentielles, on a eu des débats lancés par l'extrême droite sur le concept de remigration, donc faire rentrer les gens chez eux. Donc en fait, on a vraiment une partie de la population qui veut qu'une autre partie se casse. Et l'autre point important qui est en lien du coup avec cette notion d'ancrage, même si ça peut paraître paradoxal au prime abord, c'est la liberté de circuler. Donc la liberté de circuler partout, mais aussi la libération des terres sur lesquelles on vit pour justement pouvoir s'y ancrer. Et c'est ça que je trouve assez fou dans ce bouquin, c'est que Fatima Wassak montre bien un peu ce côté, cette ambivalence entre ancrage et liberté de circuler. C'est qu'on dit aux gens qui ne sont pas chez eux que c'est des parasites, qu'ils rentrent chez eux s'ils ne s'intègrent pas. Mais par contre, du coup, et je pense que tu vas en parler avec Vert Dragon, c'est que s'ils prennent trop d'initiatives, s'ils essayent de faire vivre leur quartier, s'ils essayent de s'ancrer, en fait, ils peuvent avoir des ennuis, ils peuvent avoir des retours de bâton. Et du coup, ma conclusion un peu générale sur un peu cette ambivalence, ancrage et liberté, c'est qu'il y a bien ce côté « t'es pas chez toi ». Mais si tu tentes quelque chose hors des frontières qu'on a établies pour toi, si tu es autre chose qu'utile pour faire tourner l'économie, en fait, si tu fais autre chose qu'être une sorte d'outil, finalement, fais gaffe, il peut t'arriver des choses. Et donc ça, ancrage territorial et liberté, ça va irriguer toute la réflexion de ce livre. Si on veut que les quartiers populaires, les classes populaires participent aux décisions écologistes, on doit leur permettre d'aller et venir partout, là où bon leur semble. Et déjà, juste pour aller voir leurs voisins, des quartiers pavillonnaires plus aisés. Parce que des fois, on a vraiment des grosses ruptures géographiques, parfois avec des histoires de construction de murs même. Donc déjà, commencer par ça, ce serait bien pour que tout le monde puisse converger ensemble. À nouveau, Magali va en parler, je suis plein de références à ta chronique. Là,
Mais t'inquiète, je ferai des références à la tienne plus tard.
Trop bien. En même temps, c'est tellement en lien. Et en fait, il y avait aussi, au-delà de ça, il y avait aussi une autre chose que j'avais trouvé super intéressante dans ce livre, pour une écologie pirate, c'est qu'on doit arrêter de tracer une frontière, à nouveau, entre, pour caricaturer, les sachants blancs BAC+5 et les habitants de quartiers populaires qui doivent être sensibilisés. Et en vrai, j'avais pas trop fait attention avant, mais cette expression qu'on retrouve dans le livre, être sensibilisé, c'est très révélateur. Ça veut pas dire prendre part à quelque chose, en fait. Ça veut dire qu'on est juste un réceptacle, on va recevoir des connaissances. Et en fait, on ne va pas être autonome dans la gestion des choses, et notamment autonome dans comment on veut qu'il y ait une politique écologiste. Et du coup, c'est quelque chose qui a été pas mal occulté par les politiques, c'est ce que dit Fatima Wassak dans son livre, et notamment les politiques écologistes. Bon, alors je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ce livre, même s'il est super intéressant, il y a beaucoup beaucoup de choses dedans, elle fait bien avec plein de choses, et je vous conseille vraiment de le lire si ce n'est pas déjà fait, pardon. Et pour glisser vers la conclusion, on va parler un peu des propositions concrètes que Fatima Wassak propose. Elle a pris donc plein d'initiatives, elle est dans plein de collectifs, elle a fait plein de choses. Et il y a quelque chose qui était assez cool, elle a participé, je pense qu'elle a co-initié, on va dire, une sorte de convergence de lutte, enfin une convergence de lutte en 2020, donc entre Alternatiba, Front de Mer et le comité Adama. Donc on avait l'écologie, le féminisme et les luttes contre les violences policières qui étaient unies ensemble. C'est pour un même combat qui était « On veut que nos enfants puissent respirer, qu'ils ne soient pas étouffés ni par la pollution, ni par les forces de l'ordre. » Et en vrai, apparemment, ça avait très bien marché. Et autre chose aussi pour conclure, ce livre pour une écologie pirate, il m'a fait perdre pas mal de liens avec ce que j'ai pu voir ou lire sur l'île. J'ai pu passer devant plusieurs aires d'accueil de gens du voyage qui sont toujours à côté de déchetteries et ou de l'autoroute. Donc en termes de pollution, de population précaire, on est là. À l'île sud, où Fatima Wassak a grandi d'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez au courant.
Non.
Elle a fait Sciences Po Lille et puis en fait elle a grandi à l'île sud, donc voilà, j'ai découvert ça à la dernière minute, j'étais en mode ah ok, trop bien. Et, mais en vrai l'île sud c'est un bel exemple aussi parce que maintenant il y a un peu des espaces verts vers le grand sud, tout ça, mais c'est toujours accompagné de gentrification et du coup de construction d'immeubles, donc bétonisation, et aussi de vie plus chère parce que gentrification. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et bon, je ne sais pas si je devrais en parler, mais Saint-Sauveur aussi, c'est un sujet...
Touchy,
ouais.
Surtout quand on enregistre là.
Ouais.
Mais après, c'est la friche Saint-Sauveur.
Mais voilà, donc il y a la friche Saint-Sauveur. Je ne vais pas m'étendre parce que sinon, Lucie, voilà. Mais il y a aussi, en termes de violence policière, toute l'affaire Selom et Matisse. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment réancrer dans le local. Donc, l'écologie, finalement, ce n'est pas juste moins prendre l'avion ou manger un steak une fois par semaine, c'est faire en sorte que tout le monde soit libre de participer aux décisions politiques de demain sans répression ni oppression. Et ce que je vois à travers ce livre, c'est qu'il faut être pirate, un peu, comme on dit dans le titre, c'est être libre de circuler, quelle que soit son origine, son lieu de vie ou ses revenus, et aussi pouvoir être autonome. Parce que les pirates, l'univers de One Piece, qu'on retrouve un peu en filigrane dans tout le livre, ça parle aussi aux enfants. D'une part, à ceux qui sont chauds pour lire 103 tomes de shonen sans s'y franchement, force à eux, je ne sais pas comment ils font. Mais surtout, ceux qui ne peuvent pas jouer avec leurs camarades des quartiers pavillonnaires, ceux à qui qu'on va essayer de sensibiliser et qu'on ne va pas essayer de rendre autonome, alors qu'en vrai, le futur, c'est eux. Voilà.
Merci Cécile pour cette explication. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce bouquin, c'est la question en fait de la production de la terre par ces populations, par des populations précaires, des banlieues, etc. La question en fait, c'est bien de la libération de la terre et pour libérer la terre, il faut pouvoir s'y ancrer. Et je pense qu'on va gagner si on en a. Si on est sincère, ça c'est une citation de Fatima Wassak, pardon, qu'on peut entendre sur YouTube. Je suis obligée de citer le média parce que je ne vois pas trop, on peut l'écouter ailleurs. Peut-être sur des plateformes de podcast. Une interview par Blast, où elle est interviewée. C'était un point intéressant. C'est un petit peu aussi pour plus frustrer les auditeurs et qu'ils aillent écouter ou lire le livre en fait.
Ouais, non, mais l'interview de Blast est très bien. Si jamais vous avez 40 minutes devant vous.
Et donc, en quelques mots, le constat fil rouge que moi je retire du livre, c'est on veut un monde plus respirable pour nos enfants, c'est aussi elle qui le dit, d'où la nécessité de casser les murs, d'aller plus loin, sinon c'est une écologie du confort. Je laisse ce terme-là en suspens pour les réflexions vraies. Et enfin, une autre citation, la liberté de circuler aujourd'hui n'est pas un droit fondamental, on se contente de se poser la question de la réduction de la circulation des plus riches, mais elle ne règle pas le problème. Ce sont des personnes qui ont le choix de réduire leur circulation ou pas. Aujourd'hui, la liberté de circuler, c'est un privilège de classe, raciale, coloniale. Pourquoi ce n'est pas un droit fondamental ? Voilà, c'est un extrait de ce qu'elle dit elle-même dans cette interview que je vous invite à aller écouter. Maintenant, pour poursuivre, on va enchaîner. Je vais introduire l'interview de Gaëlle Giffard, qui est une amie à moi. C'est pas parce qu'elle est une amie à moi que c'est intéressant, hein, clairement. C'est surtout parce qu'elle est. Elle va se présenter elle-même. De toute façon, nous allons lancer l'interview que nous avons réalisée à distance avec les outils que le confinement nous a fait apprécier ou subir.
Est-ce que tu pourrais te présenter toi, en fait? Donc, quel est ton domaine d'activité? Dans quel cadre tu interviens? Un peu tout ça.
Alors moi, j'accompagne des territoires dans des démarches de transition écologique. Donc auparavant, c'était les agendas 21, maintenant les plans climat, qui sont donc l'élaboration d'un plan d'action au niveau territorial pour avoir moins d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi moins polluer l'air et avoir une réflexion sur la consommation des ressources et notamment l'énergie. Et par ailleurs, j'enseigne également à l'université des modules de transition écologique auprès de licences professionnelles et masters.
Toi, c'est quoi la transition écologique ?
Alors, la transition écologique, c'est le chemin que notre société devrait prendre pour devenir plus résiliente et en gros pour que nos besoins des humains qui habitons cette planète soient en adéquation avec les ressources, parce que pour l'instant, on est en sur-régime et on consomme plus que les ressources disponibles. Par exemple, si tout le monde vivait comme un Américain des USA, on aurait besoin de 5 planètes. Et si tout le monde vivait comme un Français, on aurait besoin de quasiment 3 planètes. Donc si notre système est tenable aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il y a des inégalités sociales et qu'il y a des pays qui sous-consomment les ressources, hein, comme certains pays d'Afrique, alors que nous, on est en sur-régime.
Je m'interroge sur ton approche, en fait, pour parler d'écologie à tes élèves, aux personnes auxquelles tu parles, en fait, de transition écologique.
Je ne souhaite pas être dans une approche culpabilisante. Et donc, ça, c'est inscrit dans le cadre de confiance dans lequel se déroulent les cours, qu'on est dans le non-jugement. Hier, on a parlé de SUV avec certains élèves, parce qu'il y en a qui habitent au fin fond de la région parisienne, au fin fond de la Seine-et-Marne. Et ils ont un SUV, et voilà, je leur ai dit qu'on n'était pas là pour les juger. En revanche, que c'était important de prendre conscience.
Donc du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport au SUV. Donc ça arrive visiblement que certaines personnes, notamment tes élèves, plus largement donc les personnes que tu formes en fait, t'interpellent, s'interrogent ou te posent des questions sur la transition écologique, que ça soit sur l'avenir en général, par rapport à la planète, pour eux-mêmes, leur vie, leur famille, leur avenir, leur vie quotidienne, etc. En fait.
Alors j'étais assez surprise parce qu'au début, je prends toujours la température de savoir quelle est leur sensibilité par rapport à ces sujets et ces enjeux. Et j'ai été assez surprise. Parfois, ils ne se sentent pas concernés. En fait, ils ont l'impression que l'écologie, pour faire court, c'est un truc de bobo, voire de bobo parisien des grandes villes. Et souvent, après avoir abordé ces sujets, et notamment, par exemple, moi, je suis en Seine-Saint-Denis, je vis et je travaille essentiellement dans ce département, qui est l'un des départements les plus pollués de France, avec, par exemple, l'échangeur de la Porte de Bagnolet, qui est un des sites les plus pollués d'Europe. Donc, par des éléments, des faits, j'essaye de leur montrer qu'en fait, les personnes qui subissent les dégradations environnementales, ce sont les personnes qui vivent dans ces quartiers. La Seine-Saint-Denis était un département assez industriel et les sols sont pollués avec des métaux lourds, avec des hydrocarbures, avec du plomb. Et en fait, ce sont souvent les populations les plus précaires qui vivent dans les environnements les plus pollués, donc aussi bien par les pollutions chimiques, mais aussi le bruit, par exemple. On en a parlé hier en cours, le périphérique parisien est enterré quasiment tout le temps dans sa partie ouest, à côté des villes de Neuilly, de Boulogne, alors que dans la partie est, il est aérien, donc les habitants qui vivent à proximité ont à la fois les nuisances comme le bruit, mais aussi la pollution de l'air en raison des véhicules et notamment les pollutions à l'ozone ou aux particules fines. Et par ailleurs, on l'a vu dans les villes, en Ile-de-France, on est dans des zones très urbaines, très denses, avec parfois peu de végétation, alors que les arbres peuvent apporter des îlots de fraîcheur. Et quand on est dans un univers bétonné, avec en plus énormément de voitures qui contribuent aussi à réchauffer l'air, certaines villes vont devenir invivables et le sont déjà pendant les vagues de chaleur de 2022. Donc, il y a énormément de choses qui sont préoccupantes. Et les solutions, on les connaît, on les a, mais c'est vrai que pour énormément de raisons, on ne s'attaque pas de front au système qui est vraiment en cause dans ces dégradations environnementales.
Voilà, et donc nous remercions Gaëlle pour ce temps passé donc, pour l'interview. Et donc maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie et nous nous intéresserons donc aux initiatives issues des quartiers populaires. Mais juste avant, nous allons écouter Enfant fort de Médine.
Tout le monde veut sauver la planète, mais personne veut descendre les poubelles. Ça sert à rien de tirer la sonnette, mettre des gilets de sauvetage sur les sirènes. Plus leurs téléphones sont intelligents, et plus les gens sont de plus en plus cons. Je sais pas si j'ai le syndrome de Peter Pan, mais moi je veux pas que mes gosses connaissent ce monde. Oh non, c'est mieux de construire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais ouais ouais, faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, 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 faire des enfants forts. Trois chamallows qui grillent sur l'incendie. Quand il pleut, on porte le maillot, pas le parapluie. J'essaie de leur rendre la guerre un peu moins horrible, comme dans La vie est belle de Roberto Benigni. Les pierres qu'on m'a lancées, elles serviront de ricochet. On verra combien je fais quand la mer est agitée. Les lettres d'insultes que j'ai reçues, on en fera du compost. La haine c'est comme le judo, faut battre l'autre avec sa force. Je dirais que jouer au pirate tous les jours en bas du hall, le jour où je finis éborgné par un tir de flashball. Pour eux le zinc qui tourne au hap, ce gardien dans un parc, il garde les zombies arrêtés sur la colline du crack. C'est mieux de construire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, 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 faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, 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 faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, 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 faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, 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 faire des enfants forts. Pour leur maman, je suis ailleurs, comme dans un jeu que je gère ma carrière. Que le danger vient aussi de l'intérieur, qu'à la légère, je prends les menaces de mort. Gengis, mes Kamasout, s'il faut faire la paix jusqu'au bout, on leur fera. Rien à foutre de ce qu'on pense de moi, car la majorité des gens ne pensent pas.
Maintenant, nous allons du coup reprendre la deuxième partie. Et Mathis, je te laisse la redire. Deuxième partie.
Oui, qui va porter donc sur les initiatives issues des quartiers populaires. Et donc, c'est au tour de Magali de prendre la parole, si tu veux.
Alors,
bien.
Oui, donc je vais vous parler de Verdragon. On fait tout un mystère depuis tout à l'heure. Et on vous en parle maintenant, effectivement, parce que c'est un peu un cas pratique de tous les discours de la première partie de l'émission. Donc, Verdragon, c'est quoi? C'est pas seulement le nom d'un matériau de Game of Thrones capable de tuer les marcheurs blancs qui menacent l'humanité. Ce n'est pas non plus le nom d'un roman de fantasy et d'aventure, non. Et pourtant, c'est bien une sacrée aventure qui attendait les deux associations à l'initiative de Verdragon, la première maison de l'écologie populaire. Les protagonistes. Tout d'abord, Alternatiba, qu'on ne présente plus, mais on va quand même le faire au cas où. Alternatiba, c'est donc une association citoyenne pour le climat et la justice sociale. Avec elle, le syndicat Front de Mer dont Cécile a parlé tout à l'heure, un syndicat de parents installé à Bagnolet qui mène un projet écologiste, féministe et antiraciste au nom de leurs enfants, cofondé par Fatima Wasek. Vous aurez compris, on est fan. On aurait beaucoup aimé qu'elle soit présente.
On n'est pas fan de Fatima.
Voilà, et on aurait aimé qu'elle soit présente. Malheureusement,
Mais elle
nous a pas trop répondu. Mais on est quand même ravis parce qu'on a comme invité exceptionnel aujourd'hui le public. Alors, l'histoire de Verdragon se déroule dans les quartiers populaires de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, où les deux associations ont réussi à obtenir des autorités un lieu de près de 1000 mètres carrés. Un lieu si grand, mais pour y faire quoi? Non pas pour siroter leur thé à la menthe, comme ont pu commenter certains élus gonflés de leur racisme et de leur misogynie, même à gauche. Non plus pour sensibiliser les quartiers populaires. Dans le Média Vert, Fatima Wasak rappelle que le projet n'est pas de venir conscientiser le 9-3, mais rappelle que les luttes sont là, y compris les luttes écologistes. On arrive alors au cœur du récit. À Verdragon, on discute du rapport du GIEC, on fête le nouvel an asiatique, on débat, on récupère des paniers d'AMAP, on cuisine, on jardine, on discute d'écologie décoloniale et de racisme environnemental, on y organise des expositions sur les luttes paysannes.
Alors si nous avons voulu vous parler de Verdragon aujourd'hui, c'est parce que ce lieu dépasse l'éducation aux petits gestes, pour davantage se concentrer sur les problématiques structurelles, où se rencontrent l'écologie, le racisme, la précarité, les inégalités. Ce lieu se veut être un endroit où chacun s'empare des luttes et des réflexions. Et quand on dit chacun, on parle des habitants des quartiers populaires, mais aussi ceux des quartiers pavillonnaires, des blancs et des non-blancs, des classes populaires, des classes moyennes, des classes plus aisées. Verdragon est un lieu où tous se rencontrent, et c'est ce qui en fait sa particularité et sa force. Moi, ce qui m'a marqué dans un article du Média Reporter, qui était présent à l'inauguration du lieu en 2021, c'est que lors de cette première journée, ils n'ont cessé d'essayer de définir ce qu'était l'écologie populaire, pour s'accorder à dire que si le concept est encore assez flou, cette maison de l'écologie populaire aiderait à mettre des mots dessus. Et c'est vrai qu'au sein de l'équipe, on a eu un peu la même réflexion. C'est pourquoi on a finalement préféré parler d'écologie pour tous. Et c'est ce que nous montre l'exemple de Verdragon. C'est que l'écologie pour tous, c'est avant tout l'écologie ensemble, où on sort du cliché des bobos écolos contre les habitants des quartiers populaires qui n'en auraient rien à faire. L'écologie n'est pas seulement celle des puissants, tous ont leur mot à dire, et si Verdragon nous apprend une chose, c'est bien qu'en brisant les murs, on agrandit le front écologique. Et d'ailleurs, l'idée aussi derrière Verdragon, c'est que le projet fasse des petits en fait, à travers la France.
Eh bah, j'en ai un petit là justement, avec Banlieue Climat. Tu veux m'introduire ou j'y vais comme ça?
Bah écoute,
on n'a plus trop le temps, j'y vais. Allez, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une association qui permet donc aux habitants des quartiers populaires de se réapproprier le sujet du changement climatique. Donc on est un peu dans le prolongement de ce que tu viens de présenter. Et donc en effet, le but c'est de sensibiliser, de former les jeunes aux enjeux du changement climatique. En fait, c'est un peu comme la fresque du climat, mais on se concentre pour les quartiers populaires, sur les quartiers populaires. Donc l'objectif, c'est que ces quartiers populaires ne soient plus mis à l'écart, mais bien intégrés dans les processus de décision, et cela passe par des moyens pédagogiques et de compréhension, d'autant plus qu'ils sont les plus touchés par les conséquences du changement climatique, on l'a vu tout à l'heure avec ta chronique. Et donc, notamment donc, en raison d'un manque de moyens économiques, ils vivent dans des zones très urbanisées, et donc sujets aux îlots de chaleur urbains, à une pollution de l'air plus importante que la moyenne, à un déficit d'espaces verts, etc. Et donc les quatre fondateurs... Donc mise sur des formations, sur des ateliers pour rendre concret ces enjeux du changement climatique auprès des jeunes. Je vais citer donc l'un des cofondateurs de Banlieue Climat, Féris Barak, donc, qui dit « Quand je commence la formation, les jeunes pensent qu'on va parler des plantes, des ours polaires. L'idée est de leur montrer que c'est un sujet qui les touche. C'est un sujet donc, qui touche l'eau, la santé et aussi ce qu'ils mangent. » Donc une fois formés, les jeunes peuvent à leur tour sensibiliser et animer les animations auprès des écoles primaires. Et donc le but c'est vraiment d'ouvrir le changement climatique à tous les horizons, à toutes les formes d'expression et à tous les milieux. L'intérêt c'est vraiment de redonner la parole aux oubliés.
Et d'ailleurs, Banlieue Climat, l'idée c'était aussi que le concept puisse...
Ah oui, totalement. Le but c'est que ça aille un petit peu partout en France. Ouais.
C'est pour ça qu'on vous en parle, même si c'est pas forcément local.
Oui, pour l'instant c'est toujours la région parisienne, mais oui, c'est
oui, l'objectif de s'étendre. Ceux qui reçoivent la formation après peuvent eux-mêmes délivrer cette formation à d'autres personnes. Et peut-être que ça arrivera jusqu'à Lille prochainement, on ne sait pas.
Et ce qui m'a marqué en tout cas, c'est que donc il y a une petite interview de Brut que mm-hmm. vous pouvez aller consulter sur vos écrans habituels. C'est qu'il est très jeune, en tout cas un des fondateurs. Donc voilà, ouais. Je veux dire, c'est que on dit souvent ouais les jeunes ils font rien, les jeunes ils bougent pas. Bah en fait, ça dépend des jeunes et ça dépend de tout le monde en fait. Du coup maintenant, nous allons entendre. Le public, on a trouvé un moyen pour qu'il l'entende aussi, donc c'est super. Un reportage de l'association VRAC, le reportage que nous sommes allés faire, pour parler français, avec Marine, se situe à Fives. Il faut savoir que vous allez entendre, j'allais déjà parler de plein de choses, mais en fait non, vous allez l'écouter vous-même. Nous allons lancer, si Arnaud tu es OK, pour lancer le reportage.
Alors, moi je m'appelle Arthur, j'habite à Lille et je travaille pour une association qui s'appelle VRAC Hauts-de-France. Donc VRAC, c'est un acronyme, à la base c'est l'acronyme de VER, un réseau d'achat en commun. Et donc, on est une asso qui travaille sur l'accessibilité à une alimentation saine et durable. Et quand on parle d'accessibilité, c'est pour faire en sorte que cette alimentation-là, donc ce qu'on entend, ce qu'on met derrière, ça va être les produits bio, les produits locaux, pas ou peu transformés, et ben soit accessible à tous, et notamment à ceux qui n'en ont pas accès de manière naturelle, parce qu'ils habitent dans des endroits où il n'y a pas une offre qui est très présente, ou à l'inverse, il y a une offre, mais qui est parfois trop chère. On organise chaque mois des épiceries éphémères dans les différents quartiers de la métropole où on est installé. Donc on est installé à Fives, à Pont-de-Bois, à Lille-Sud, à l'Alma, à Roubaix, à la Bourgogne, à Tourcoing. Donc ces épiceries éphémères, elles commencent avec une période de prise de commande qui ont lieu 2 semaines avant les épiceries éphémères. Donc nos adhérents commandent leurs produits, donc c'est des produits secs principalement. On va avoir des légumineuses, de la farine, des pâtes, de l'huile d'olive. Voilà, vraiment on a 80 références en bio et ou local. Et donc ils vont commander chaque mois sur la base de notre catalogue les produits qu'ils souhaitent dans les quantités qu'ils souhaitent. Et 2 semaines plus tard, donc comme là on est aujourd'hui, c'est le temps de l'épicerie éphémère. Et les adhérents viennent récupérer leurs commandes avec leurs contenants. Tout est vendu en vrac ou presque. Et pour rendre accessible ces produits, on vend tout ça au prix producteur. Donc nous, on ne rajoute pas de marge, on vend au prix auquel on l'achète auprès des producteurs.
Le vrac est venu et c'est comme c'est du bon produit bio, bah, on en profite.
C'est du vrac et du bio ?
Ouais, des deux. L'huile d'olive, elle est super.
Vous faites la pub là ?
Ah ouais. Bah, quand c'est bon, hein.
Il faut le dire. Hein.
Voilà, il faut le dire. Hein. L'huile d'olive, le miel au citron, le produit vaisselle. Alors là, vous faites la vaisselle, vous sentez le citron. Et c'est pas cher.
Ah oui, en plus ?
Ah ben ouais. On a tout. Bah, les gens, ils sont sympas ici, hein. Ça va. Ils parlent, ils nous donnent des recettes, des graines là et tout ça que je connaissais pas du tout.
On nous a parlé de salicorne là-bas, par exemple.
Oui, voilà. Je connaissais pas, mais on nous a donné 2 recettes de salicorne.
Les 300 grammes.
Jérôme, je viens donner un coup de main une fois par mois ici depuis 6 mois peut-être. Voilà. Aujourd'hui, je suis sur le rayon liquide lessive et liquide vaisselle. Et puis, je sers aussi l'huile d'olive, accessoirement, et la salicorne.
Et du coup, vous venez...
Une fois par mois pour la distribution des produits. Je commande en même temps. Et puis, voilà, j'aide à décharger le camion et puis à servir de temps en temps. C'est plutôt sympa de venir servir les gens. Oui, c'est populaire, convivial. Voilà, donc c'est plutôt cool.
Je suis Rosalie, je suis du quartier de l'île Fives et donc effectivement je viens faire mes courses en vrac ici parce que je suis intéressée par l'achat de produits en vrac de bonne qualité, mais aussi parce que je suis productrice de savon et que mes produits sont dans le catalogue de l'association Vrac. Alors, donc, au niveau du catalogue, on peut trouver 2 sortes de savons. Un savon lait de chèvre. Le lait de chèvre, d'ailleurs, il est produit à Rieulay, près de Marchiennes, donc c'est local. Voilà. Un savon au miel, 2 sortes de shampoings solides et un déo solide. J'ai rencontré justement Sandrine et Arthur qui commençaient en fait à implanter leur association ici et ils n'avaient pas encore de savonnier-savonnière. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis d'abord intéressée à ce qu'ils faisaient, mais aussi on a établi un partenariat productrice un partenariat tout court. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de courses, mais voilà, l'avantage de venir faire ces achats dans les épiceries vrac, c'est que on a des produits de qualité, on n'a pas de minimum en fait de commandes, de poids. Le système d'adhésion est très simple, donc c'est-à-dire si on est une famille dans la difficulté, on peut payer 1 € d'adhésion par an. Si on a des moyens un peu plus confortables, on paye 20 € d'adhésion par an.
Prendre ce qu'il y a en trop là.
C'est quoi ce qu'il y a en trop là? Parce que je vois pas ce que tu veux dire.
C'est les produits en plus qui sont disponibles, qui n'ont pas été commandés par les adhérents.
Donc tu es en train de me dire que par exemple, je suis adhérente, j'ai commandé 200 grammes de pâtes, 1 litre d'huile d'olive et 2 savons.
Ouais.
Et si j'ai envie de café, et que sur cette liste-là qu'on voit à l'entrée de notre de cet endroit, tu peux en acheter.
Ouais.
J'espère que ce reportage vous aura donné envie d'aller voir si ça vous intéresse et si éventuellement, pas loin de chez vous, il y a un endroit.
L'association.
Une association, enfin, je veux dire, une épicerie éphémère dans laquelle vous puissiez aller faire vos courses. Maintenant, nous allons conclure cette émission, c'est ça, hein ? Nous arrivons déjà à la conclusion de l'émission.
Et on a dit beaucoup de choses déjà. Les auditeurs digérer.
Pour conclure cette émission, on tient à remercier qui ? On tient à remercier les personnes qui sont intervenues pour la réaliser, c'est-à-dire là, nous venons d'entendre Rosalie et toutes les personnes
du réseau VRAC.
Du réseau VRAC.
Et d'ailleurs, Sandrine Forzi qui a été notre contact pour cette interview.
Eh bien, si tu veux, je peux te laisser résumer toutes les personnes. Donc Gaël, il y a eu qui d'autre ? Il y a eu Fatima Wassak dans nos cœurs parce que ne nous a pas répondu, mais en fait, vraiment, on l'a cité et recité. Et franchement, Fatima, donc merci à toutes ces personnes qui nous ont permis de créer cette émission. Remerciements aussi tout particulier au public aujourd'hui en folie, ouais. En délire. Voilà, vous l'entendez, ça fait chaud au cœur et ça fait du bien d'entendre ça, parce que sinon en studio à RPL d'habitude on ne l'entend pas. Mais merci beaucoup Arnaud d'avoir assuré en technique avec nous. Merci la MRES et aux organisatrices de Et Demain qui visiblement sont taquées. Donc à la gare Saint-Sauveur de nous avoir accueillis, aux bénévoles de cette saison. Alors pour les citer tous, vous allez m'aider. Donc présentement ici, Mathis, Cécile, Magali, Marine.
Magali, la deuxième Magali, Maxence et Elena.
Voilà, merci à elle, merci à sa professeure, qui à des professeurs.
À la prof de Maxence.
Ouais, parce que voilà, des personnes qui nous ont aidés pour nous mettre en contact avec des personnes importantes. Cette émission, on arrive à sa fin et c'est aussi la fin de la saison, malheureusement. Et rien de plus à dire d'autre que maintenant, nous allons enchaîner vers la fin, c'est-à-dire vers la musique de fin, Arnaud.
T'es égaré et d'un coup tu me surprends. On dirait bien que d'ici tout se suspend. Je parle avec toi à défaut d'un ami. Toi et moi jusqu'à la tombée de la nuit. On va se mélanger. Tu fleuris. Je me dilue dans ton éminence. Je garde mal mes distances. Je sais l'ardeur de tes silences. Chahuté par le mistral, en tournant sans mal au rafale. Sous la pluie, les larmes de rage, et le paysage se confondent pour la vie. Sous la pluie, les larmes de rage, et le paysage se confondent pour la vie. À deux doigts de sombrer, sauvé par les eaux.
Paysage.
De nuages là-haut, m'ont sauvé la peau. Je vais chavirer dans des pluies diluviennes. Ce soir je vais noyer mes peines dans les tiennes. On va se mélanger. Tu fleuris. Je me dilue dans ton éminence. Enveloppé par ton averse. Enfin le sanglot se disperse. Le fruit de cette sombre affaire. Dévalant au renvers la mer. Des sentiments, et j'en oublie à qui j'en veux.
danse.
Ce mélange mélangé qui fleurit, fleurit, je me dilue, dilue dans ton éminence.